Radiogramme, une émission du Fonds régional d'art contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rencontre avec Marceline Delbecq à l'occasion de l'exposition Partenaires particuliers au FRAC PACA, dans laquelle elle présente One, un livre, une édition unique qui contient un récit en 9 cahiers manuscrits écrit à Portmeirion, village du Pays de Galles qui a notamment servi de décor à la série Le Prisonnier. Protégé par une vitrine le rendant inaccessible, One est réservé aux spectateurs de l'exposition qui aura laissé à l'attention de Marceline Delbecq une proposition qui lui semblera être la plus intéressante. Ce privilégié pourra ainsi découvrir le récit unique de ce livre dont il est le héros. Après un long séjour aux États-Unis, Chicago puis New York pour étudier la photographie, le travail de Marceline Delbecq s'est peu à peu éloigné de cette pratique pour se concentrer sur la potentialité cinématographique de l'écriture. Son utilisation du récit, de la voix, élabore un univers narratif mis en mots et en sons pour convoquer un ensemble d'images mentales oscillant entre description et fiction. Dans ses installations sonores, publications et lectures, pour lesquelles elle utilise le plus souvent sa propre voix comme une voix off à un projet cinématographique invisible, les mots mettent en jeu la question du regard en devenant à leur propre tour des visions. Le travail de cette jeune artiste jette ainsi des ponts entre la littérature, la photographie et l'installation sonore. Marceline Delbecq utilise un langage très visuel, qui projette l'auditeur, le spectateur, au cœur de l'image.
À l'origine de mon travail d'écriture, il y a la photographie, puisque j'ai commencé par faire des études de photographie. J'ai toujours écrit un petit peu, mais de façon très aléatoire. Et du coup, j'ai vraiment emmagasiné une culture visuelle à travers la photographie, et notamment la photographie américaine, puisque j'ai étudié pendant 2 ans aux États-Unis. Et donc, mon écriture s'inspire de toute façon souvent d'images. Donc c'est vraiment un travail d'écriture entre la description et la fiction. Et mon premier travail d'écriture, ça a été un petit livre que j'ai édité en 50 exemplaires quand j'étais aux Beaux-Arts, qui était un ensemble de textes formulés à partir de photos de Diane Arbus, de peintures d'Edward Hopper et de photographies de Gregory Crutzen. Donc c'est un petit livre qui s'appelait After, puisque after en anglais veut dire après et d'après. Donc c'était vraiment comment partir d'une image, et dans le cas de Diane Arbus c'était presque même un hommage en fait, puisque j'ai découvert sa photographie quand j'étais adolescente, et c'est vraiment son travail qui m'a fait penser que, en tout cas, j'allais devenir photographe et pas forcément artiste. Et donc je suis partie d'une sélection d'images ou de peintures que j'ai opérées moi-même. Et en commençant par un travail de description, j'ai essayé d'emmener l'image vers un au-delà. Soit d'induire un récit pour chacun des personnages qui étaient présents, puisque j'avais choisi des images qui contenaient des personnages et pas uniquement des décors vides. Soit de leur créer une histoire. Et mon idée, c'était vraiment de formuler des récits qui puissent permettre aux spectateurs de lire des récits indépendants de l'image, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien s'approprier ces histoires-là en dehors de l'image. Chaque portrait, puisque finalement c'était des portraits, avait sa légende à la fin, donc on avait la légende de l'image après seulement avoir lu le texte lui-même. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était de partir de l'image pour donner au spectateur une seconde image qui, du coup, se détachait complètement de l'image d'origine et qui, en même temps, lui permettait, s'il allait retrouver l'image d'origine, de ne plus pouvoir se détacher du récit qu'il avait lu. Donc, c'était comment partir de la photographie pour l'emmener dans un au-delà qui est un travail d'écriture et que l'écriture puisse ramener à l'image, mais différemment.
En 2002, Marceline Delbecq réalise sa première installation sonore. Scène se compose à la fois d'un récit mettant en jeu un couple un homme et une femme qui ne parviennent pas à échanger sans heurts, et d'une série de photographies en couleur d'un espace intérieur.
Donc Scène, c'est effectivement la première pièce sonore que j'ai réalisée. À un moment où bizarrement je produisais très peu, j'étais dans une espèce de sécheresse comme ça, et du coup je lisais énormément et je lisais beaucoup de théâtre, et j'avais sûrement besoin à ce moment-là de lire des récits qui étaient censés être incarnés physiquement, puisque je pense que le théâtre, on peut pas quand on lit une pièce de théâtre. En tout cas, moi, je projette immédiatement une représentation sur une scène, en fait. Et donc, Scène a été composée vraiment petit à petit sur la longueur, au cours de mes lectures, où j'ai fini par, en lisant beaucoup de théâtre, par m'intéresser aux didascalies elles-mêmes. Donc, comme je le disais, qui sont une forme de texte écrite qui n'est pas censée être interprétée oralement, et qui est particulièrement descriptif puisqu'elle décrit soit le décor, soit l'action des personnages, tout en restant finalement très évasive. Et puisqu'on n'a jamais l'identité, à part féminin et masculin, mais ça va jamais au-delà. Et du coup, j'ai fait une espèce de collecte de didascalies, comme ça, au fur et à mesure. Et c'est en les lisant sur le papier que j'ai commencé à former une narration. Donc ce qui m'intéressait là, effectivement, c'est qu'il y avait un personnage féminin, un personnage masculin sur lesquels on ne savait rien et sur lesquels on savait en même temps beaucoup de choses, puisque finalement ils étaient mis en situation d'une tension extrême d'un couple dans un espace à la fois très décrit et très vague. Et donc cette pièce-là, elle était présentée en deux temps. En premier, on écoute la pièce sonore, donc. Et dans un deuxième temps, vous pouvez voir une série de photographies qui ont été prises au Grand Hôtel de Cabourg, donc qui est un hôtel à la fois très chic et très désuet. Et moi, ce lieu-là m'intéressait particulièrement parce qu'il avait vraiment cette qualité, quand on entre à l'intérieur de l'hôtel, de perdre tous ses repères de temps et d'espace, en fait. On se retrouve dans un endroit qui n'évoque pas vraiment le passé parce que c'est suffisamment contemporain pour qu'on sache qu'on est dans un temps présent, et qui en même temps a des agréments visuels qui sont absolument pas de l'ordre de ce qu'on voit nous au quotidien maintenant.
Une grande salle, une balustrade. À droite, une fenêtre sans carreaux. À gauche, de l'autre côté du mur effondré, la campagne. Au milieu de la salle, une longue table. Des chaises. À son entrée, surpris et moqueur, il ôte son chapeau et semble attendre des applaudissements de la galerie. Son attitude est clownesque. Elle traverse la salle sans le regarder. Elle s'adresse à lui sarcastiquement avec un accent anglais. Il attrape un corps et joue un passage de Purcell. Ébranlé, revenant du jardin, ensommeillé, énigmatique, il la fait tomber. Atmosphère sensuelle, décadente, un living room, une chambre à coucher assez lamentable. Elle vit dans un imaginaire d'exaltation, de raffinement, de grandeur. Elle est perpétuellement à bout de nerfs. Elle est affalée sur un fauteuil bancal. Le living est vide. Elle a l'air déçue. Elle est habillée comme pour un cocktail dans un quartier résidentiel. La musique s'éteint doucement. Les photographies ouvrent sur un espace, décor hypothétique au déroulement du scénario sonore.
J'ai pris une série de photographies qui sont vraiment des indices du lieu lui-même et qui pour moi sont, donc s'accordent avec la pièce sonore si on ne les voit pas dans le même temps, puisque les photographies deviennent un lieu potentiel à l'action qui se déroule dans la pièce sonore. Et d'autre part, c'est un espèce de relevé d'indices qui, en eux-mêmes, occupent l'image, mais qui suggèrent tout ce qui se passe en dehors de l'image. Et j'ai vraiment choisi ces cadrages comme des ponctions. Il n'y a jamais de vue générale, c'est toujours des espaces presque clos, en fait, et vraiment surtout des détails de l'architecture, donc notamment un lustre sur un plafond framboise, un cheval en pleine course sur un piano recouvert d'un miroir, voilà, que des détails qui permettent de, à la fois de se plonger à l'intérieur de l'image et d'en sortir très vite, puisque l'essentiel finalement est peut-être dans ce qu'il y a derrière cette image et dans ce qu'on ne voit pas.
En 2004, Marceline Delbecq s'interroge sur le pouvoir des images à travers une installation sonore intitulée « So Long », présentée à l'occasion de l'exposition Fata Morgana au Crédac d'Ivry, où le visiteur était invité à admirer une photographie de Marilyn Monroe et à écouter, muni d'un casque, un récit où ennui, attente et mal-être transparaissaient.
L'utilisation de la photo de Marilyn, ça fait partie d'un des aspects de mon travail qui est finalement de me servir beaucoup d'images iconographiques et de leur attribuer un statut différent. Et cette image de Marilyn m'intéressait particulièrement parce que donc, c'est une photographie prise par Inge Morath sur le tournage des Misfits. Donc ce qui est intéressant de savoir aussi, moi je l'ai su après coup, mais c'est que Arthur Miller a écrit The Misfits. Il a écrit le scénario du film. Il était encore marié avec Marilyn Monroe au moment du tournage et ils ont divorcé très peu de temps après. Et Inge Morath, qui donc était employé par Magnum et a fait une grosse partie des photos du film et du tournage, est devenue la deuxième épouse d'Arthur Miller. Cette photo m'intéressait vraiment parce qu'en fait, c'est pas justement pas un film style, c'est pas une photo du film lui-même, c'est une photo du tournage. Et là, Marilyn est vraiment pour moi dans un moment de flottement complet. Et même dans la prise de vue elle-même, en fait, elle a une présence extrêmement grave et extrêmement aérienne. Je crois qu'elle est notamment sur la pointe des pieds, dans un décor très sec, très aride, et elle ne regarde absolument pas l'appareil photo, et elle est vraiment, pour moi c'était un moment d'introspection saisie sur le vif, avec toujours ce doute de savoir est-ce qu'elle joue, parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui a priori savait très bien user des objectifs soit cinématographiques soit photographiques. Et cette photo me rappelle notamment une image de Richard Avedon sur laquelle j'étais tombée quand j'étais adolescente, en fait, et c'est pareil, c'est un portrait de Marilyn qui n'a absolument pas de face, alors que Avedon photographiait quand même ses modèles vraiment dans un face-à-face avec l'appareil photo. Et là, c'est un portrait en assez gros plan, et Marilyn ne le regarde absolument pas, et pour moi, elle est vraiment complètement perdue. Donc on voit ses bouclettes, on voit ce maquillage, on voit cette espèce d'apparat, elle a une robe à paillettes, on voit son décolleté, et en même temps, elle est complètement absente, et je trouvais que c'était une image très très forte, puisque visuellement, ça reste un symbole de la femme la plus désirée du monde, et en même temps d'une femme qui finalement, dont la personnalité n'a jamais été vraiment mise à jour. Enfin, elle commence à l'être, puisqu'il y a de plus en plus d'ouvrages sur justement ce contre-personnage auquel personne n'a eu vraiment accès. Et pour moi, cette image-là, c'était ça. C'était partir de l'image d'une icône qui finalement a presque déserté le champ. Et donc j'ai pensé la pièce comme un soliloque, en fait, qui serait comme un panorama à 360 degrés et qui oscillerait vraiment entre le paysage, la description du paysage et l'influence qu'il pourrait avoir sur Marilyn à ce moment-là, et un monologue intérieur. Donc j'ai vraiment envisagé l'écriture comme un panoptique qui irait très lentement. Et puisque c'était à 360 degrés, alors du coup, le récit commence et termine au même point.
Une maison au milieu de rien. Sec. Un désert sec. Peu d'herbe. Une colline. Pas de montagne, mais des collines friables qui se dérobent sous les pieds. S'effritent quand on glisse. Des gringoles. Le ciel, tout en rond au-dessus de la tête. Elle porte une robe en soie. C'est démêler les cheveux devant une glace entourée de petites ampoules dont la moitié ne s'allume plus. Elle a mal à la tête. Avion qui laisse une pénible trace, glisse sans bruit sur un ciel de Turner. La nuit va tomber. La nuit va tomber. Elle se sert un verre, sans glaçon. Il ne prenait jamais de glaçon. Elle verse son verre par terre, lentement. Elle a envie de lécher le sol. Elle a toujours mal à la tête et ce grillon qui s'essouffle dans l'herbe sèche. Elle est pieds nus. Elle tourne, les pieds serrés, de plus en plus vite, de plus en plus vite. La musique derrière est beaucoup trop forte. Vieux disque qui saute.
Avec Solo, réalisé en 2005, Marceline Delbecq initie le Jukebox Project, pour lequel elle choisit de ne retenir de certaines chansons que les mots. Édité sur vinyle numéroté, lu par l'artiste comme des poèmes, les morceaux ne sont plus reconnaissables. Comment s'est opérée la sélection des chansons ?
La sélection, elle s'opère de façon assez simple. La contrainte de départ, c'est de m'approprier des chansons que je n'ai jamais entendues. Puisque ce projet Jukebox, donc, il contient plusieurs pièces, dont effectivement Solo, There, Swim. Donc à chaque fois, les titres des chansons sont écourtés en un seul mot. Et c'est dans l'idée qu'en général, on se souvient d'une mélodie de chanson qu'on a entendue une fois, 10 fois, 100 fois, sans forcément se souvenir des paroles, surtout quand elles sont dans une langue étrangère. Et là, j'ai essayé de penser le processus inverse, de donner les paroles comme premier souvenir et que la mélodie soit quelque chose qu'on puisse y joindre dans un temps séparé, une fois de plus. Et c'est notamment très difficile de réciter une chanson. J'ai essayé de le faire pour des chansons que je connaissais. Et c'est extrêmement difficile de lire des mots sans que la mélodie vienne à l'esprit immédiatement, en fait. Et on peut très difficilement lire une chanson, par exemple Get Up de James Brown. Si on voulait la lire, en fait, la musique devient beaucoup plus prégnante que les paroles elles-mêmes. Donc là, je suis partie de chansons que je ne connaissais pas, que j'ai fini par entendre après les avoir enregistrées pour certaines, d'autres que je n'ai effectivement jamais entendues. Et donc c'est une édition à chaque fois sur vinyle, un petit nombre d'exemplaires. Et les interprètes sont choisis comme étant des interprètes masculins extrêmement charismatiques, en fait. Donc c'est aussi une façon pour moi de m'approprier ces espèces d'icônes masculines de la chanson, sans pour autant que ce soit un projet réellement féministe, en fait, mais du coup de me mettre dans la peau d'un interprète tout en transformant complètement la chanson que j'utilise. C'est finalement presque une interprétation, même si je les récite, même si je ne les chante absolument pas. C'est une prise de possession d'un texte que je lis comme une poésie. Donc certaines chansons, la première que j'ai faite, c'était une chanson de Deep Purple, donc qui est vraiment une chanson de métal, et dont finalement le texte est très cucu la praline. Et du coup, c'est aussi décontextualiser complètement une chanson qui, à l'écoute de la musique, c'est une chanson d'hard rock. À l'écoute des paroles toute seule, ce qu'on ne fait jamais, c'est en anglais on dit cheesy, c'est vraiment c'est de la guimauve. Et c'est ce que j'ai fait pour une chanson d'Elvis aussi, donc qui s'appelle Moonlight Swim, qui est vraiment une chanson qu'il a écrite et interprétée dans un film d'ailleurs, très 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 guimauve, et que j'ai essayé de m'approprier pour en faire quelque chose de presque poétique, de plus dramatique aussi, et du coup de me placer en tant qu'interprète, mais non plus pour rendre la chanson elle-même, mais pour vraiment en faire quelque chose de complètement différent.
dernière pièce du Jukebox Project, une reprise de la chanson de Frank Sinatra, There is a Small Hotel.
C'est une pièce que j'ai fait en duo avec un artiste américain qui s'appelle Dustin Erickson. Donc on a enregistré la même chanson séparément et j'ai fait un mix des deux prises de son, comme si cette chanson était non seulement un duo, mais presque un dialogue de film. Finalement, on a un personnage féminin et un personnage masculin. Donc j'ai fait le montage de telle façon à ce que chacun dise une phrase. Donc c'est comme une question-réponse. Et le ton de voix de chacun des deux est tellement différent que du coup, le même texte devient presque inquiétant pour la voix masculine et presque naïf et enfantin pour la voix féminine. Et c'est une pièce qui a été présentée dans une exposition dans un hôtel à Paris, l'hôtel 16, qui était montée sur DVD en fait. Donc elle était présentée dans un écran plasma. À l'écran, il n'y avait que le générique et pendant la pièce sonore elle-même, l'écran était noir. Et ça devenait vraiment comme un dialogue de film éteint avec deux protagonistes qui finalement... était à la fois très complémentaire et dans un duo presque, presque inquiétant, en tout cas pour le personnage féminin.
I'd like to get away, Junior.
Somewhere alone with you.
It could be oh so gay, Junior.
You need a laugh or two.
A certain place I know, Frankie.
Where funny people can have fun.
That's where the two will go, darling. Before you can count up.
One, two,
three, four.
There's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there together.
There's a bridal suite, one room, bright and neat.
Complete for us to share together.
Looking through the window, you can see a distant steeple. Not a sign of people. Who wants people?
When the steeple bell says,
good night, sleep well. We'll find the small hotel together.
We'll creep into our little shell.
And we'll thank the small hotel together.
Good night. Sleep well.
Toujours en 2005, Marceline Delbecq réalise une installation sonore intitulée Une fin, un scénario en trois séquences non chronologiques. Le cadre de la scène, Los Angeles, ville du cinéma et du glamour, mais aussi lieu emblématique d'une certaine violence aux États-Unis. À travers cette pièce, c'est à nouveau l'écart entre l'image que véhicule le cinéma américain et la réalité d'une société qui est mise à jour.
C'est une pièce que j'ai écrite donc à partir de l'existence d'un Cambodgien qui s'appelait Angus Ngor, qui donc a fui le régime, qui était médecin, qui a fui le régime Khmer Rouge, qui a réussi à s'installer en Californie. Et là, par hasard, en fait, il est devenu acteur. Il a notamment joué dans un film qui s'appelait The Killing Fields, pour lequel il a fini par avoir un Oscar. Et c'était donc le premier acteur non professionnel et étranger à avoir un Oscar. Et donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était le changement de vie de cette personne, en même temps complètement habité par une atrocité, en fait, dans son passé, et dont la fin est tout aussi dramatique, puisqu'il s'est fait assassiner sur le parking de son immeuble par trois membres d'un gang qui voulait lui voler son pendentif, qui contenait d'ailleurs la photo de sa femme morte sous le régime Khmer. Et c'était en découvrant cette espèce de destin, puisqu'il s'agit d'un destin, de quelqu'un qui finalement a été relativement oublié, non seulement dans le champ cinématographique, mais quoi qu'il a utilisé beaucoup de son argent pour instaurer des choses au Cambodge. Donc je ne peux pas dire que ce soit quelqu'un de totalement inconnu, puisqu'il a sûrement une importance pour beaucoup de gens. Et en même temps, je trouvais que voilà, cette espèce de fatalité d'avoir fui un régime atroce et de se retrouver dans cette espèce d'Éden qui est voilà, le rêve américain, la Californie, le milieu du cinéma, Los Angeles, et de se faire assassiner aussi bêtement. Et donc j'ai écrit un récit effectivement en trois séquences. Donc les trois séquences sont diffusées les unes à la suite des autres, et on se retrouve à la fois, la première évoque le moment de sa mort, la seconde évoque la cérémonie des Oscars, et la troisième évoque les quelques minutes avant sa mort.
Extérieure nuit, Los Angeles, 25 février 1996. Il fait froid. Un froid inhabituel pour Los Angeles, détrempé depuis plusieurs jours par une bruine incessante. Le Dodger Stadium est fermé ce soir. À l'angle d'Elysian Park Avenue et de Sunset Boulevard, un chaos de voitures ensommeillées stagne en ronronnant au rythme des essuie-glaces. L'esthéticienne qui vit au deuxième étage de la résidence du 945 North Battery Avenue enfile son manteau de fourrure en grommelant après son mari, qui vient de lui demander de sortir les poubelles. Ils ont dû monter le chauffage à cause du froid, et il ne faudrait pas qu'elles empestent l'appartement. C'est également à cause du froid que l'esthéticienne s'est acheté une pelisse. Elle sort en claquant la porte, marche jusqu'au bout du couloir silencieux, descend l'escalier à petits pas pressés pour éviter d'attraper froid. Alors qu'elle avance le long du parking plongé dans l'obscurité, le sac poubelle suspendu au bout de ses gants de cuir, elle passe devant la voiture de M. Engor, garée comme d'habitude à quelques mètres de l'escalier conduisant au hall d'entrée. « Étrange, » pense-t-elle tout en laissant glisser le sac poubelle dans le conteneur de métal. « Étrange que rien ne soit allumé chez M. Engor alors que sa voiture est là. Il a dû sortir faire un tour, mais par ce froid. » Elle contourne à nouveau la Mercedes pour regagner son étage, toujours à petits pas pressés. Le vent est glacial. C'est précisément à cet instant que s'élève un hurlement strident sous la pluie. Elle vient de découvrir le corps de son voisin, étendu le long de sa voiture aux portières entrouvertes. Intérieure nuit, Los Angeles, 25 mars 1984. L'homme qui gravit les marches conduisant à la scène d'un amphithéâtre comble est vêtu d'un...
Pour cette œuvre, des casques diffusant les trois séquences écrites et lues par l'artiste reposaient sur une plateforme en bois sur laquelle le titre de la pièce était inscrit en lettres vinyliques dorées.
Donc là, c'était un dispositif assez particulier puisque c'était une exposition de groupe. Le procédé était de montrer les œuvres presque à plat sur une plateforme en bois assez sobre mais assez élégante, puisque du coup toutes les œuvres étaient non seulement à portée de main, mais il fallait soi-même presque se baisser pour pouvoir les regarder. Et comme je ne voulais pas que le texte ait une présence visuelle, j'ai décidé de... Donc ce titre, qui effectivement est un clin d'œil au The End des films américains, et en même temps The End, c'est plus la fin qu'une fin. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de une fin possible, et puisque finalement le récit de l'action elle-même au moment où lui s'est fait assassiner, moi je ne l'ai pas eu, je n'ai fait que l'inventer à partir des documents que j'ai trouvés. Donc c'est une fin potentielle, et donc le titre est entre parenthèses, et était effectivement sur lettres d'or à même la plateforme, dans l'idée d'un titre qui épouse complètement le dispositif de monstration, qui soit des lettres d'or. Alors certains pensent aux lettres d'une tombe, pour moi c'était plus un espèce d'éphéméra avec un aspect presque scintillant, presque clinquant, alors que ce sont des lettres vinyliques qui se détachent si on gratte avec l'ongle. Donc vraiment un dispositif très 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 évanescent.
Extérieure nuit, Los Angeles, 25 février 1996. Trois petites frappes cherchent une victime en cette soirée de février. Il fait froid. Il pleut. Ils traînent depuis le début de l'après-midi à quelques pas de Sunset, en vue d'obtenir de quoi se défoncer plus tard dans la nuit. Les Oriental Lazy Boys ont une petite vingtaine d'années et portent une tenue de basketteur trop grande sur des corps de judoka robustes et nerveux.
En 2005, Marceline Delbecq a écrit une série de textes intitulés Glimpses, aperçus, qu'elle a mis en scène lors de lectures publiques.
Alors cette pièce-là, donc, c'est une série de portraits de personnalités que j'ai écrits après les avoir croisés. Donc il y en a six et il y en a une des six que je n'ai jamais croisée, mais avec qui j'ai eu une espèce d'échange très furtif. En fait, il s'agit de Willem Dafoe et j'étais dans une galerie à Berlin et j'ai visité l'exposition dans la galerie et en fait dans un des bureaux derrière, un des employés de la galerie avait une photo dans un cadre de Willem Dafoe. Et en fait, en pensant que l'exposition se continuait, je suis rentrée dans le bureau et je suis tombée sur cette photo en croyant pendant une fraction de seconde que c'était lui. Alors que c'était absolument pas la bonne échelle, mais bon, en tout cas, la photo avait suffisamment de présence pour me faire croire que j'avais croisé le regard de Willem Dafoe, donc c'est ça qui a suscité le texte. Mais pour le reste, c'est effectivement des gens que j'ai croisés. Donc c'est vraiment des textes écrits dans l'idée d'être moi-même une caméra, en fait, qui puisse à la fois filmer la rencontre elle-même. D'ailleurs, je parle de rencontre, mais ce n'en est pas vraiment une, puisque je n'ai utilisé que des personnes à qui, justement, je n'avais jamais parlé. Et donc, ce sont des rencontres qui sont très évanescentes et très visuelles. Donc, de me placer moi-même en tant que caméra, d'enregistrer cette séquence de la rencontre et tout ce qui pouvait se passer autour à ce moment-là. Et donc, ce sont des portraits de ces personnes vues par moi, mais qui, évidemment, moi, ne m'ont jamais vue. Et du coup, c'est aussi, dans toute cette réflexion sur l'icône, une manière d'aborder des personnages qu'effectivement j'ai reconnus parce que je les ai vus en représentation, soit à travers la télévision, soit à travers les journaux, soit en concert, ça a pu arriver, que du coup moi je considère comme presque importante parce que je les ai vues, alors que finalement en soi ça ne change absolument rien, surtout dans la mesure où je leur ai pas parlé, il n'y a eu aucun échange à aucun moment. Et dans cette idée que moi je puisse être capable de reconnaître quelqu'un et que moi physiquement je n'évoque rien pour cette personne. Donc l'idée de la lecture, c'est un dispositif qui est assez important pour moi. Déjà, c'est la première lecture que j'ai réalisée au Frénois, donc déjà dans une salle de cinéma, ce qui était assez intéressant puisque c'est vraiment un dispositif cinématographique. C'était l'idée de faire exister ces rencontres comme si moi, sur scène, je présentais des séquences de films. Et donc, je suis sur scène et je suis uniquement rétro-éclairée par une projection qui se passe derrière moi, qui est composée de fondu au noir qui passe du fondu au blanc et retourne au fondu au noir. Et chaque fondu dure le temps de la lecture de chacun des portraits. Et au milieu du fondu au blanc apparaît le nom de la personne et l'endroit dans lequel je l'ai croisé. Et d'ailleurs, il s'agit uniquement d'hommes. Il y a notamment Lou Reed, Jim Jarmusch, voilà. Et donc, je suis rétro-éclairée, ce qui fait qu'on voit ma silhouette, mais on ne voit absolument pas mon visage. Et ce qui m'intéresse dans ce dispositif-là, c'est effectivement de livrer avec la voix ces récits, enfin ces portraits comme une séquence de cinéma, et en même temps de me placer à la manière des benjis dans le cinéma muet japonais, qui étaient donc ces hommes, a priori je crois qu'il n'y avait pas de femmes, qui pendant la projection d'un film muet étaient sur scène et soit inventaient des dialogues, soit racontaient l'histoire dans le temps où elle se passait à l'écran. Et c'était des personnages qui n'étaient pas acteurs dans les films, mais qui étaient vraiment des interprètes du film. Et le public japonais, donc ça a duré très longtemps, et le public japonais finissait par aller voir le film plus pour le benji que pour le film lui-même. Donc c'est un moment donné où le narrateur qui se trouve sur la scène en face de l'écran prend plus d'importance que les personnages du film lui-même. Et là, c'est... pour moi, c'est cette position d'être présente sur scène et que ma présence physique suggère ma présence à l'intérieur de chacun des portraits. Et en même temps, on ne voit jamais rien puisqu'on ne me voit pas et qu'on ne fait que m'entendre.
Nocturne a été réalisé dans le cadre de la résidence de Marceline Delbecq au Palais de Tokyo en 2005. Affiches de cinéma disposées les unes à côté des autres, le texte a remplacé ici l'image, et ces posters ressemblent à des pages d'un livre.
Chacun des posters est une séquence d'un film qu'on ne voit jamais, qui à l'origine a été inspirée par une photo de William Eggleston. Donc j'ai choisi 6 images dont je me suis servie. Donc je nomme William Eggleston, mais la photo n'est... La photo elle-même et son contenu ne sont absolument pas présents dans les textes. Mais j'ai utilisé les photos comme vraiment une base de travail et un décor pour l'action que je voulais y situer. La série de posters se lit de droite à gauche et c'est une descente vers le crépuscule. Petit à petit, chacune des séquences écrites donc sur fond monochrome met en scène deux personnages masculins, un personnage féminin, qui sont en proie à sans doute quelque chose de dramatique, bien que ça ne soit pas nommé. Et du coup, le spectateur va crescendo vers la tombée de la nuit et vers cette espèce d'irrésolution finalement, puisque je laisse vraiment le spectateur libre d'imaginer ce que les mots suggèrent. Donc ce sont à la fois des séquences extrêmement visuelles et qui laissent place à des récits que moi je n'ai pas formulés. Donc c'est à la fois très abstrait, très concret. C'est du texte imprimé sur des affiches de cinéma, donc effectivement comme si l'affiche elle-même avait remplacé le film. Et bizarrement, je pensais que de voir autant de textes sur un mur, parce que ce sont des très grands formats qui font 1m60 par 1m10, de voir autant de textes sur un mur, c'était assez rébarbatif pour le spectateur, parce que lire un récit sur un mur de musée, c'est pas forcément très évident. Bizarrement, les séquences, je pense, sont suffisamment succinctes et visuelles, justement, pour qu'on puisse rentrer dans chacune d'elles, notamment à travers la couleur, puisque chacune a une couleur très présente, et du coup, c'est comme une plongée. Le monochrome devient vraiment comme une plongée dans la couleur, et une couleur qui habite le récit. Les affiches, en fait, elles vont du bleu ciel au bleu nuit. Et finalement, je pense que pour celui qui prend le temps de lire et de se plonger à l'intérieur de ces images qui n'en sont pas, on peut repartir. Mon idée, c'était aussi qu'à la lecture de cette série d'affiches, on puisse avoir des images mentales qui, pour moi, évoque celle qui me reste quand je sors du cinéma. Parce qu'effectivement, quand on voit un film, on ne peut jamais se souvenir d'une image en mouvement. On se souvient uniquement de stills, en fait, d'images fixes. Et finalement, tout ça devient une espèce de brouillard. Peut-être on se souvient de séquences particulières, mais on finit toujours par faire une espèce d'amalgame de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a entendu. Et je voulais que le spectateur puisse repartir avec cette espèce de flottement, l'impression d'avoir vu quelque chose, et puisque dans les faits il n'a rien vu, de se rendre compte que ce qu'il avait formulé visuellement, c'était uniquement mental, et qu'il sortait de la projection d'un film qui n'a jamais existé.
Avec le pianiste Benoît Delbecq, l'artiste a initié un projet de performance sonore et visuelle intitulé Verpal, dont un premier volet a eu lieu au Mexique en 2005 dans le cadre du festival Media Arte à Monterrey.
Verpal, c'est vraiment un projet, c'est une collaboration et un projet qu'on écrit à deux voix. Ma partie étant celle du texte et la partie de Benoît étant celle de la musique, et dans un échange permanent qui permet moi d'induire et des sonorités et de la musique à l'intérieur de mes textes, et Benoît à travers le sample notamment utilise mes textes directement dans sa musique. Donc Benoît est pianiste et compositeur, il est notamment musicien de jazz, joue beaucoup de piano préparé et a collaboré avec soit avec le chanteur Catherine, soit avec Olivier Cadio. Et là, c'est vraiment une composition. Donc, on a centré sur Alana Dimova, qui était une actrice de cinéma muet, une actrice russe émigrée aux États-Unis au début du siècle dernier, et qui était une fois de plus une icône très charismatique. Et en même temps complètement déchu, puisque c'est quelqu'un dont seuls les spécialistes du cinéma muet de cette époque-là peuvent parler, mais il y a vraiment très très peu d'archives sur elle. C'était quelqu'un qui était à la fois scénariste, productrice, actrice et réalisatrice, qui a eu une vie complètement déjantée pour l'époque en tout cas. Et voilà, j'ai vraiment voulu partir de ce personnage, de cette personne d'abord, parce qu'avant d'être un personnage, c'est une personne sur laquelle très peu de gens ont écrit, qui visuellement fait très peu partie de l'histoire du cinéma, puisque le cinéma muet déjà est déjà presque une sous-histoire du cinéma en soi. Et voilà, moi je m'intéresse énormément au cinéma muet, bizarrement, puisqu'il est uniquement visuel et pas du tout sonore. Et ce qui m'intéresse aussi dans le cinéma muet, c'est la fonction des intertitres. Et donc à la Nadimova, on a le projet Verpal. Donc Verpal, c'était la couleur de ses yeux qu'on ne voit jamais à l'écran puisque les films sont tous noirs et blancs. Et Verpal est un projet qui joue vraiment, du coup, sur le visuel et le sonore, puisqu'on est tous les deux sur scène. Moi, j'apparais et je disparais. J'ai écrit 5 textes qui sont tous différents, qui sont certains très réalistes sur sa vie de femme et d'actrice, certains écrits à partir des rares films qu'on peut voir d'elle, puisqu'il en reste 3 sur une quinzaine de films. Et au milieu de ce set, puisque c'est ni vraiment une performance ni vraiment un concert, est projetée une très courte séance qui a été ralentie d'un film qui s'appelle Camille, qu'elle a joué avec Rudolph Valentino, qui est une interprétation de La Dame aux Camélias, qui est un très beau film d'ailleurs. Et donc Verpal joue vraiment sur cette espèce d'apparition-disparition d'une personne qui est devenue un personnage, parce qu'en plus elle s'est presque fondue dans son personnage cinématographique, elle est devenue presque une caricature d'elle-même et qui finalement a été oubliée. Je trouve que c'est un projet qui, moi, m'emmène au-delà du travail d'écriture que je mène habituellement et qui devient en plus une représentation physique. Moi, je suis sur scène, Benoît est sur scène, et il interprète, dans le temps de la lecture, mes propres textes.
Surplombé par deux lions impassibles qui défient de leur regard de pierre les promeneurs trop curieux, une grille aux volutes en arabesque s'ouvre sur une allée de gravier poussiéreux. La voie principale se sépare en chemin siamois qui coupe à travers le parc, pour mener au château construit à flanc de colline, soigneusement dissimulé derrière une végétation luxuriante et ombrageuse. À mesure que votre voiture glisse dans la poussière, se déploient successivement pins, eucalyptus, chênes et cèdres tricentenaires qui cohabitent dans la langueur de l'été avec une myriade de géraniums argentés, liliacées aux corolles blanches et herbes des pampas, dont les plumets soyeux pointent vers le ciel. Après avoir passé le moulin faussement vétuste de l'entrée, les immenses serres à agrumes et plantes tropicales, le lapinier à ciel ouvert qui oblige le cuisinier, pour les attraper, à les abattre au fusil, le kiosque aux parois de verre bleuté, dans lequel se succèdent mélomanes et joueurs de billard noctambules, le jardin potager, le labyrinthe d'allées touffues qui traverse les plates-bandes de magnolia ou d'œillets pour arriver aux jets d'eau autour desquels flâne une colonie de cygnes imperturbables, vous arrivez sur les hauteurs. Votre voiture s'arrête devant une villa massive aux volets clos, entourée par 2 immenses terrasses bordées de colonnades émaillées. Son toit est surmonté d'un dôme byzantin, tour d'ivoire circulaire dont les fenêtres permettent de guetter, au-delà de la rade, le retour d'un navire parti il y a plusieurs mois pour Constantinople.
Le récit de l'échappée, installation sonore produite à l'occasion de l'exposition Une peinture sans qualité, sur une invitation de Catherine Perret à la Villa Tamaris Pacha, oscille entre réalité et fiction, une imbrication savante qui amène à une perte de repères.
Échappée, c'est la première pièce sonore que j'ai conçue comme étant une fiction in situ, c'est-à-dire que je ne pars plus d'une image mais d'un lieu, d'une architecture précise. En l'occurrence, c'est un lieu que j'avais eu l'occasion de visiter avant, en amont. Et donc c'est un texte que j'ai conçu comme une visite guidée qui effectivement s'adresse au spectateur, puisque l'idée c'était de, de l'emmener dans ce récit comme je pouvais l'emmener dans une visite guidée. Et je me suis servie pour ça de, d'archives sur, le, sur la ville de la Seyne-sur-Mer, puisque donc le, l'installation était présentée à la Villa Tamaris, à la Seyne-sur-Mer. Et c'est à partir de documents d'archives, soit écrits, soit photographiques, que j'ai créé ce, ce récit, très influencé par l'histoire du créateur de la Seyne-sur-Mer, qui s'appelait Michel Pacha, qui était donc ingénieur et qui a notamment construit tous les détroits du Bosphore. Donc c'était un marin qui, un jour, en, en revenant à la Seine, a eu une espèce d'illumination en voyant ce, ce morceau de côte et qui a décidé d'acheter tout le... tout le lieu pour en faire une, vraiment une station balnéaire très chic, à la fois très, avec beaucoup de villas clairsemées dans, dans les collines et un casino, voilà, vraiment un lieu de villégiature qui pouvait concurrencer Nice et Cannes. Et donc je me suis servie de l'histoire de la création de la ville elle-même et de la Villa Tamaris, puisque c'est une des villas qui reste de cette époque de faste, et de sa vie à lui qui a finalement été assez dramatique, et de créer cette visite guidée d'un lieu qui s'appelait le château, donc qui était son domicile à lui, qui était un château dans un parc, donc il ne reste plus que les deux lions de l'entrée, et d'emmener vraiment le spectateur à travers la description, donc mi-actuelle, mi-fictionnelle, d'un parcours que j'ai entièrement imaginé et que j'ai aussi imaginé de manière à ce que le spectateur qui entendait la pièce à la Villa Tamaris puisse croire que la villa elle-même était le lieu dans lequel se passait le récit. Et l'idée, c'était vraiment, puisque le, la Villa Tamaris est aussi dans un parc, est aussi sur une montée, qu'en repartant, en prenant cette route qui descend et qui descend vers la mer, on puisse tout d'un coup s'intéresser aux éléments du paysage aux alentours et se rappeler que peut-être ils ont été nommés dans le récit pour certains. Donc c'est la première fois que je mets le spectateur, enfin l'auditeur, en jeu, donc je m'adresse à lui. Et donc la, la pièce était présentée dans une petite salle avec, avec très peu d'éléments décoratifs. La fenêtre, dans la mesure du possible, sauf les jours où il faisait mauvais, la fenêtre était ouverte. Donc ça permettait vraiment d'être à la fois effectivement à l'intérieur en entendant un récit qui lui se projetait complètement dans le paysage extérieur, et d'avoir cette vue sur l'extérieur qui finalement ramenait presque à l'intérieur, ramenait presque au récit. Donc effectivement ce jeu de passé, de présent, de visible, d'invisible, et qui, dans lequel tout se mélangeait, l'auditeur se retrouvait dans la position de quelqu'un qui fait une visite complètement virtuelle d'un lieu dans lequel il se trouve pourtant.
Pénétrés à l'intérieur de la villa après avoir gravi un tortueux escalier de pierre brute, traversé un hall circonscrit de tiges de bambou noueuses, puis l'une des deux vérandas aux rideaux de satin foncé. Profiter quelques instants de la vue panoramique inoubliable sur une mer saphir. Accédez ensuite, par un étroit couloir, au petit et grand salon en enfilade.
Invité par Claire Moulaine et Mathilde Villeneuve à concevoir dans le cadre de l'exposition Partenaires particuliers, une œuvre à spectateur unique, Marceline Delbecq imagine One, un livre coffret, qui sera remis à la fin de cette exposition et de celle qui suivra à l'espace Paul Ricard à Paris, à la personne qui aura formulé une proposition exceptionnelle à l'artiste.
Donc après la, la proposition de Claire et Mathilde, j'ai réfléchi à une œuvre qui effectivement ne s'adresse qu'à un seul spectateur à la fois. Et en l'occurrence, dans mon travail, c'était assez logique de faire un livre, non seulement parce que c'est par excellence un objet qui s'adresse à un spectateur unique, mais aussi parce que j'utilise le texte et que finalement c'était complètement logique de faire d'un livre une œuvre. Et j'ai choisi pour ça de me rendre dans un lieu unique pour écrire un espèce de mélange entre ce que j'appelle fiction in situ et un livre dont vous êtes le héros. Donc j'ai choisi pour ça un endroit qui s'appelle Port Merion, qui est un village au Pays de Galles. Donc c'est un endroit qui a été entièrement construit par un architecte qui s'appelait Sir Clough Williams Ellis. Et il a élaboré ce village. Il a d'abord acheté le terrain et il a ensuite construit un village entier, donc avec vraiment l'architecture, enfin plutôt la disposition typique d'un village, c'est-à-dire qu'il y a une place centrale, il y a une mairie, il y a des maisons, voilà, c'est vraiment l'organisation d'un village, sans toutefois penser à ce que le village lui-même soit habité. Et architecturalement, il est entièrement composé d'immeubles qui ont été importés de plusieurs endroits différents. Donc il y a un espèce de mélange d'architecture complètement incroyable. Les couleurs sont très vives. Donc, il y a des maisons roses, il y a des maisons bleues. Tout ça à une échelle qui n'est pas vraiment l'échelle normale non plus. Par exemple, il y a une gloriette qui a été importée d'Autriche, voilà, une partie d'un bâtiment autrichien qui allait être détruit. Et cette gloriette a donc une façade, un balcon, et derrière, il n'y a rien. Donc c'est toujours comme ça des espèces de prélèvements d'architecture. Pour certains qui sont entiers, il y a une maison georgienne, Town Hall, la mairie, c'est un bâtiment qu'il a récupéré dans un village du Pays de Galles avec une salle de bal en sous-sol et qu'il a vraiment reconstruit pierre par pierre. Et donc on est presque dans un village miniature qui en même temps n'est pas miniature puisque tout est habitable et tout est à échelle humaine, et en même temps c'est absolument pas un village normal, déjà parce qu'il n'est pas habité, donc c'est un lieu très étrange qui est visitable de 9h30 à 17h, dans lequel on peut aussi loger si on loue une chambre. Et j'y suis allée 2 jours, j'ai loué une chambre et je me suis retrouvée dans ce village entièrement désert le matin. Et il faut dire aussi que ce village, au-delà de sa particularité, a aussi servi de décor à la série Le Prisonnier. C'est pour ça qu'il est connu. Et c'est un des éléments forts de la série, parce qu'effectivement, il a une place très centrale dans l'action du personnage principal, qui se retrouve dans ce village dont il ne peut pas sortir sans pourtant qu'il y ait de barrière. Donc j'ai choisi de m'inspirer de ce lieu à la fois unique et complètement incroyable, pour emmener le lecteur du livre unique qui est présenté ici, qu'on ne peut pas lire, donc à travers un itinéraire de 3 chemins, choisi, le livre s'appelle One, donc le O pour l'ouest, le N pour le nord et le E pour l'est, donc il manque le sud. C'est un récit écrit à la main qui propose 3 itinéraires et dans lequel j'emmène le lecteur dans un endroit qu'a priori il ne connaît pas. Et voilà, et je n'en dirai pas plus parce que sinon personne ne voudra la voir. Et en fait, l'idée pour cette proposition, c'était effectivement de créer un livre unique, qui soit un récit unique pour un spectateur unique, et d'en faire une pièce qui n'ait pas de valeur marchande, mais qui puisse être attribuée à quelqu'un qui me ferait une proposition. Donc c'est à la fois, d'une part, créer une œuvre unique pour un spectateur unique, et en même temps d'initier un échange entre l'artiste et la personne qui pourrait vouloir, désirer absolument cet objet. Et voilà, et là, l'objet est presque à disposition de tout le monde, dans la mesure où j'ai mis en place donc d'une part un prologue, donc chacun des visiteurs peut lire le prologue du livre, il donne envie peut-être d'en savoir plus, et d'autre part une petite carte sur laquelle le visiteur peut formuler une proposition d'échange et soit l'envoyer au frac, soit la glisser dans la boîte aux lettres qui est installée sous la vitrine.
Je tiens à remercier chaleureusement Marceline Delbecq pour cet entretien. Si vous voulez devenir le lecteur unique de ce livre écrit par l'artiste, n'hésitez pas à faire parvenir vos propositions soit par courrier à l'adresse du FRAC, 1 place Francis Chirat, 13-00 de Marseille, soit par mail à l'adresse diffusion@fracpaca.org. Pour plus d'informations sur Marceline Delbecq, vous pouvez consulter le site de ses galeries www.galeriefrankelbaz.com ou johannkoenig.de. L'exposition Partenaire particulier se tient au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au 22 avril 2006. Elle réunit des œuvres d'Absalon, Marceline Delbecq, Olivier Dolinger, Patrick Evrard, Francesco Finizio, Loris Gréau, Samantha Rajasinkam et Tatiana Trouvé. Radiogramme vous a été proposé par le Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette émission a été réalisée par Vanina Andréani, assistée au montage et aux illustrations sonores de Cyril Sec. Générique Cyril Sec. À bientôt pour un prochain radiogramme.